La question de la transmission du texte coranique a toujours suscité l'intérêt des chercheurs. La position de l'orthodoxie musulmane consiste à affirmer que le texte coranique est le résultat d'une révélation qui s'est transmise conformément à la lettre, Allah. La question légitime sur les origines des qira'at consiste à savoir si celles-ci relèvent d'un enseignement prophétique exclusif ou bien si elles ont d'autres origines. L'idée que la transmission du Coran fut transmise d'après le sens n'est en fait pas nouvelle. Régis Blacher et Goldzayer en avaient effectivement eu l'intuition et l'avaient soigneusement exprimée sans pour autant l'avoir explicitée et argumentée. Elle tire aussi son origine dès les premiers temps de l'islam. Il s'avère qu'un certain nombre d'érudits musulmans autorisaient ce type de transmission. La transmission du Coran semble donc avoir été effectuée de manière générale, conformément au sens jusqu'à l'imposition de la Vulgate othmanienne. Les savants musulmans considèrent effectivement que le Coran ainsi que ses variantes de lecture ont été préservées de toute modification et de tout oubli. Ils prétendent ainsi que chaque qira'a est un verset coranique. L'orthodoxie musulmane invoque l'argument de la transmission orale par audition, appelée sunnatun muttaba'a, dont chacune des générations aurait hérité. Pour démontrer le caractère ininterrompu des Assanides, remontant ainsi jusqu'au prophète Mohammed. Que ce soit Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Sallam, Ibn Mujahid, Ad-Dani ou bien Ibn al-Jazari, tous sont d'accord sur le fait que l'ensemble des lectures, ce qui englobe 80 systèmes de lecture, font partie des 7 ahruf révélés aux prophètes de l'islam. Cette affirmation soulève une question capitale. Peut-on penser qu'un texte peut être à la fois révélé et multiple? Comment concilier ce point avec l'affirmation selon laquelle la transmission du Coran s'est effectuée conformément à la lettre? L'examen de la tradition musulmane montre plutôt qu'il y aurait eu une double transmission, une conforme à la lettre et l'autre plutôt conforme au sens. Il est bien sûr très difficile de déterminer avec exactitude les versets appartenant à l'une de ces deux types de transmission. En revanche, ce qui semble être avéré, c'est que la prolifération de qira'at dès les débuts de l'islam montre que les premiers musulmans jouissaient d'une liberté avec le texte qui sera partiellement restreinte par le troisième calife de l'islam, Uthman ibn Affan, et presque définitivement interdite par Ibn Mujahid et ses successeurs. Selon la tradition musulmane, le prophète de l'islam aurait autorisé la transmission du Coran d'après le sens. Du moins, c'est ce qu'affirment certaines variantes textuelles du fameux hadith énigmatique des 7 ahruf, qui sont donc 7 façons de réciter, voire de formuler l'expression coranique. Ce hadith joue effectivement un rôle crucial dans l'histoire du corpus coranique, puisqu'il est invoqué par l'orthodoxie sunnite en tant qu'argument irréfutable, prouvant le caractère multiforme de la révélation. Ce récit est unique en son genre. Il est rapporté dans des contextes bien différents qui remettent en cause la teneur textuelle du hadith. Sans pour autant aborder la question d'authenticité, on peut affirmer toutefois que ce hadith semble fidèle à une certaine réalité linguistique tribale. Pour une série de ces variantes textuelles, la contradiction est évidente. Mais faute de temps, je ne pourrai pas développer cet aspect problématique. En revanche, je souhaiterais mettre l'accent sur une de ces variantes textuelles qui met en évidence la dérogation prophétique à réciter le Coran tout en respectant le sens. En effet, d'après Tabari, comme vous pouvez le voir, le prophète aurait dit à Omar, qui se plaignait, donc le deuxième calife de l'islam, qui se plaignait d'une personne qui récitait différemment de lui. « Ô Omar, tout le Coran est correct, sawab, tant que tu n'as pas terminé un verset qui mentionne la miséricorde de Dieu par son châtiment et vice-versa. » Ce qui attire également mon attention, c'est qu'un examen de la tradition musulmane a permis de relever des variantes de lecture prophétique, non conformes à la Vulgate othmanienne, mais qui respectent le sens général du verset. J'ai retenu 2 exemples. Tout d'abord, Al-Bukhari, Al-Tirmidhi et Abu Daoud rapportent que le prophète récitait le verset 58 de la sourate 51. Inna Allaha ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, que vous voyez en haut, de la manière suivante. Donc Al-Bukhari nous dit Donc, qui est la première personne. Abu Daoud et Tirmidhi ajoutent le mot inni. Inni, pour insister, inni an-razzaq dhul quwwati al-matin. Le second exemple est le verset 74 de la sourate 8. Alors, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ad-Duri rapporte dans son ouvrage Épître sur les variantes de lecture prophétique que ce dernier récitait ce verset de la manière suivante. Illa taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun 'arid. Le sens du terme kabir signifie littéralement grand, alors que 'arid signifie littéralement large. On notera qu'en l'occurrence, c'est le sens du verset qui est pris en compte. Même si la question est de savoir pourquoi avoir délaissé la lecture prophétique au profit d'une autre, on peut peut-être y voir la volonté d'harmoniser la rime du texte. En ce sens, la lettre Ra, pour le mot Kabir, ici, donc la lettre, excusez-moi, la lettre Ra, contrairement à la lettre emphatique Bad, pour le terme Arid, pardon, a un écho sonore atténué et s'inscrit mieux avec la série de rimes en Ra et en Mim. Par ailleurs, la deuxième occurrence du terme Arid dans la sourate 41, donc vous avez ici, dans la sourate 41, le verset 51, s'inscrit dans une série de rimes en lettres emphatiques. On a ici le Sad, ensuite le Ta et le Va. Donc, concernant la transmission d'après le sens, nous avons également ce même type d'exemple pour les compagnons. Je me contenterai de citer deux exemples. Tout d'abord, celui de Omar ibn al-Khattab. D'après Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ibn Abi Daoud, Omar aurait récité à la place du verset 5 de la Fatiha « صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » le verset suivant « صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين » Donc cette variante est un exemple de transmission d'après le sens et concerne une des plus importantes sourates du Coran que les compagnons auraient entendue à voix haute durant l'office de la prière pas moins de 6 fois par jour. Le second exemple est celui d'Anas ibn Malik. Ibn Jinni rapporte dans son ouvrage Al-Muhtasib. Ibn Jinni rapporte dans son ouvrage Al-Muhtasib qu'Anas ibn Malik aurait récité le verset 5 de la sourate 73 Inna nashi'at al-layli hiya ashadd wat'an wa aqwa muqila de la manière suivante. Aswabu qila. Lorsqu'on lui a dit que le verset était « Aqwa muqila », il répondit que vous récitez « Aqwam » ou « Aswab » ou « Ahya », le sens est le même. J'ai pu effectivement relever deux commentaires très intéressants d'Ibn Jinni qui montrent l'évolution de sa position. Le premier commentaire se situe au niveau de la sourate 9 et concerne le terme « Yajmahoun » du verset 57 qui signifie « se précipiter abattu ». Il rapporte en effet qu'Anas ibn Malik aurait récité le terme « yajmizoun » à la place de ce mot, qui ont le même sens. Ibn Jinni, tout en reconnaissant que cela ressemblait à une récitation conforme au sens, déclare que les musulmans sont obligés de croire qu'Anas a récité ces termes devant le prophète. Ibn Jinni tient ce propos, bien que le contexte ne s'y prête pas, puisque Anas ne rapporte pas cette variante du prophète, mais la mentionne dans un contexte de synonymité. Le deuxième commentaire, chronologiquement plus tardif, puisqu'il concerne le verset 5 de la sourate 73, donc en fin de Coran, donc Ibn Jinni affirme cette fois-ci que les compagnons prenaient en compte le sens et qu'ils se permettaient de l'exprimer différemment sans ajouter d'autres commentaires. On peut penser que sa position tout au long de son ouvrage, a évolué pour, in fine, reconnaître l'existence d'une transmission d'après le sens, à l'instar de la poésie préislamique. Je souhaiterais maintenant attirer votre attention sur une tradition qui met en évidence que la version coranique d'Ibn Mas'ud serait considéré par le prophète lui-même comme étant la version primitive, la version brute du texte coranique. En effet, la tradition musulmane rapporte que le prophète aurait dit au sujet d'Ibn Mas'ud « Celui qui souhaite réciter le Coran « Rabban » et dans certaines variantes « Ratban » c'est-à-dire comme lorsqu'il vient à peine d'être révélé qu'il le récite selon la variante ou la lecture d'Ibn Ummi Abd qui n'est autre qu'Ibn Mas'ud. Nous sommes face à un récit très explicite qui mentionne en amont une version coranique primitive, pas encore achevée, pas encore aboutie, et par raisonnement par l'absurde, mafhoum al-mukhalafa, nous avons donc en aval une version polissée, achevée. Afin de nous rendre compte de la nature de ces deux états du texte coranique, je vous propose de comparer quelques exemples de variantes d'Ibn Mas'ud et d'autres avec celles de l'édition du Caire. Je ne sais pas si on voit très bien. Alors vous avez... ici, l'édition du Caire, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire. « Ma nansakh min » donc le verset 106 de la sourate 2. « Ma nansakh min ayatin aw nunsiha » vous avez la traduction juste en bas. Donc on a la variante d'Ibn Mas'ud qui est « Ma nunsik min ayatin aw nansakha najibi mithliha aw khayrim minha » qui est un petit peu redondante. Vous avez celle de Salim Maula Hudhaifa qui est un petit peu plus fluide. Ma nansakh min ayatin aw nunsikaha. Nous avons un deuxième exemple. Walladhi, donc le verset 240 de la sourate 2. Walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Pour l'édition du Caire. Pour la variante d'Ibn Mas'ud. Walladhina yutawaffawna minkum kutiba alayhim alwasiyatu li azwajihim. Qui est encore une fois un petit peu redondante. Nous avons également la variante d'Ubay ibn Ka'b qui utilise un autre terme, le terme mata'. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فمتاع لازواجهم. Le troisième exemple qui concerne le verset 7 de la sourate 3. Donc le verset suivant, وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون. La variante d'Ibn Mas'ud qui est une formulation complètement différente. إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون. Puis nous avons la variante d'Ubay ibn Ka'b où le verbe يقولون est conjugué au singulier. Alors ces quelques exemples d'une série d'exemples permettent d'établir l'effet suivant. Excusez-moi, pardon. Tout d'abord, si l'on se fie à la tradition mentionnée un peu plus haut, celle du texte primitif d'Ibn Mas'ud, on est en droit de penser que la variante d'Ibn Mas'ud devait être la plus fidèle à l'arrestation prophétique et que les autres ne seraient que des versions améliorées du texte. Enfin, on peut également penser que les variantes de lecture sont la conséquence d'une appropriation subjective du texte coranique d'après le sens de la part des compagnons. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on relève le même mode de transmission dans les passages coraniques dits abrogés. Je peux pas vous, faute de temps, je ne peux pas vous les montrer, mais vous avez l'exemple du verset de la lapidation et également le verset de l'Ouadi, où on a plusieurs variantes textuelles pour le même verset. Alors, je rappelle également que c'est probablement de cette manière qu'il faudrait entendre le fameux hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, rapporté par le Bukhari, qui... après que le prophète l'ait écouté réciter le Coran, lui dit « Si je savais que tu m'écoutais, je l'aurais encore mieux récité. » C'est-à-dire, probablement, mieux formulé. C'est également pour cette raison que Saïd ibn al-As, qualifié de très éloquent, figure parmi les membres de la commission mandatée par Uthman. La question est pourquoi faire appel à un très jeune compagnon âgé de 9 ans à la mort du prophète et d'une vingtaine d'années lors de la collecte uthmanienne, alors qu'Ibn Mas'ud, illustre mémorisateur du Coran, ou bien même Ibn Abbas, qui est de sa génération et fin connaisseur du Coran, était présent. On dira, si l'on croit Zahabi, que l'éloquence et le caractère soutenu de l'expression coranique lui reviennent parce qu'il s'exprimait comme le prophète. Pour d'autres sources, et bien qu'il n'ait pas participé à la fitna entre Ali et Muawiyah, celui-ci était un fervent soutien de Uthman. La question de la transmission d'après le sens s'est également posée au sujet de la tradition prophétique. Les savants musulmans se sont interrogés sur la licéité ou non d'une transmission d'après le sens des hadiths. Si l'on en croit encore une fois la tradition musulmane, le prophète aurait lui-même autorisé à transmettre son propos d'après le sens, en raison du fait que les compagnons se seraient plaints de ne pas pouvoir mémoriser son propos avec justesse. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la démonstration faite par les savants musulmans afin de permettre une transmission du hadith d'après le sens. En effet, la quasi-unanimité des savants musulmans du IIe siècle se fonde pour autoriser ce type de transmission sur le fait que le Coran lui-même fut révélé selon sept ahruf, parce qu'il était difficile de le mémoriser, d'une seule et unique manière. Ils invoquent aussi l'argument que les termes utilisés pour raconter l'histoire des prophètes bibliques dans le Coran diffèrent d'une sourate à une autre, et que le plus important est d'en préserver le sens. On a l'exemple de « jadwa » ou bien « qabas » qui signifie un débris enflammé. Par conséquent, leur raisonnement est que s'il est permis de le faire pour le Coran, il en va de même pour les dires prophétiques. Alors, Az-Zuhri est un des premiers à avoir autorisé ce type de transmission. Vous avez ici donc... Donc, Abu Uwais dit « J'ai interrogé Zuhri au sujet du taqdim et du ta'khir, qui est le changement de position des mots dans le hadith. Il dit alors, étant donné qu'il est permis de le faire pour le Coran, il va de même pour le hadith. C'est autorisé tant que le sens est inchangé. » J'ai également relevé le propos de Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui était un des professeurs de Omar ibn Shabbah, mais aussi de Ali ibn al-Madini, professeur et maître de Bukhari. Il dit « Je crains qu'il soit trop difficile pour les gens de mémoriser les hadiths par cœur. Bien que le statut du Coran soit encore plus sacré, il a été permis de le réciter de manière différente, tant que le sens est le même. » Et je termine par le propos de Shafi'i. Étant donné que, par miséricorde et mansuétude à l'égard de ses créatures, Dieu exalté soit-il, a révélé le Coran selon sept ahruf, parce qu'il savait que la mémoire pouvait nous trahir. Il leur a donc autorisé à le réciter différemment tant que le sens reste inchangé. Si l'on croit ces trois affirmations, ajoutées à celles d'Ibn Jinni, la transmission du Coran d'après le sens était en fait connue et pratiquée jusqu'au moins le deuxième siècle de l'islam. Cette liberté dont jouissaient les premiers musulmans va être définitivement interdite par l'orthodoxie musulmane afin de mettre fin aux contestations sunnites et chiites autour du texte coranique. C'est avec Ibn Mujahid que la lecture selon les variantes d'Ibn Mas'ud devient interdite, bien qu'elle le fût auparavant pour des raisons politiques par Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. En effet, certaines sources sunnites et chiites, telles que Usd al-Ghabal ibn al-Athir ou bien Ta'wil al-Ayat al-Zahira l'Istirabadi, Ibn Mas'ud n'était pas un grand partisan de Uthman ibn Affan, et ce dernier l'aurait même privé de tout salaire durant plusieurs années. Ibn Shannabouz et Ibn Miqsam, contemporains d'Ibn Mujahid, incarnent en mon sens le spectre d'Ibn Mas'ud. Ils vont être sévèrement sanctionnés pour avoir enseigné sa variante et autorisé de réciter le Coran conformément à la langue arabe. Az-Zamakhshari, au VIe siècle de l'ère musulmane, contesté pour son mu'tazilisme, considère que les qira'at sont la conséquence d'ikhtiyarat, c'est-à-dire de préférences linguistiques et grammaticales. Il est vrai que la quasi-unanimité des savants musulmans réfute et nie ce type de transmission, en prétextant que le texte coranique fut scrupuleusement, transmis selon la lettre. Néanmoins, certains savants musulmans, tels que Malik ibn Anas, Al-Tahawi, Ibn Jinni, Al-Baqillani, Ibn Abdelbar, Abu Shama, Ibn Hajar al-Asqalani, vont toutefois reconnaître, pour la plupart de ceux que je viens de citer, l'existence d'une transmission d'après le sens, mais ils considèrent en raison du concept de révélation ipsissima verba, de l'inimitabilité du texte coranique, al-i'jaz, que celle-ci aurait été abrogée soit par la dernière recension prophétique, al-ardat al-akhira, ou bien par le consensus des compagnons autour de la vulgate uthmanienne qu'on appelle ijma' al-sahaba. Tous ces éléments nous conduisent à nous interroger sur la conception même du Coran dans l'esprit des premiers musulmans. L'examen des ouvrages du droit musulman permettent de mieux cerner l'état d'esprit de ses savants sur ce point et montre son évolution depuis les débuts de l'islam jusqu'au IIIe siècle de l'ère musulmane où le texte coranique a été défini comme parole divine, incréée et immuable par les traditionnistes. Les juristes musulmans sont d'accord, du moins de prime abord, sur l'obligation de réciter en arabe le texte coranique durant l'office de la prière. On rapporte qu'Abu Hanifa aurait autorisé la récitation du Coran en persan. Cette position a effectivement des incidences sur la conception même du Coran et sur le débat autour de son statut. Il paraît évident que pour aboutir à celle-ci, Abu Hanifa devait considérer que la parole divine était créée et se transmettait selon le sens. Selon les traités de jurisprudence hanafite, la dérogation autorisée par Abu Hanifa n'était pas en faveur des seuls non-arabes. J'ajouterai également que selon ces mêmes traités, il aurait autorisé la lecture de la Torah et des évangiles dans la prière à condition de s'assurer que les passages lus ne soient pas falsifiés. Pour Al-Kassani, juriste hanafite, Abu Hanifa considérait le lafd, le terme coranique, non pas comme la parole de Dieu, kalam Allah, mais plutôt comme une manière d'exprimer le sens voulu par Dieu, quelle que soit la langue dans laquelle cela était exprimé. Il déclare les propos suivants. Réciter le Coran dans la prière est obligatoire au vu du fait qu'il est l'expression qui indique la parole de Dieu, attribut qui lui est inhérent, et du fait qu'il contient des enseignements, des exhortations, des incitations, des intimidations, de l'éloge et de la vénération. Non en tant que lafd, non en tant que terme arabisé. L'expression avec tel ou tel terme, importe peu tant que le sens est respecté. Bien que ces propos soient attribués à Abu Hanifa, les savants hanafites postérieurs ont démenti cette attribution en prétextant que rien d'authentique n'était rapporté en ce sens. Ils n'hésitèrent pas en revanche à affirmer sans aucun élément probant qu'Abu Hanifa considérait le Coran comme parole divine incréée. Sans pour autant préciser ici, faute de temps, les divergences entre les écoles théologiques sur la nature du Coran, je me permets de croire que l'histoire complexe du corpus coranique et de ses qira'at est probablement au cœur de cette polémique. Elle semble avoir été écartée du débat en raison de ses incidents sur le statut de la révélation des qira'at et sur l'inimitabilité du Coran. Curieusement, les mu'tazilites, qui considèrent que le Coran est une parole créée, ne mentionnent pas dans leur argumentation, à l'appui de leur vue, ni le hadith de cet ahruf, ni l'histoire du corpus coranique et ses qira'at. Il est vrai que si la transmission du texte coranique s'est effectuée conformément au sens, elle ne peut être que créée émanant d'un être créé. Et cela interroge le phénomène de la révélation et la question de l'inimitabilité du Coran, concept essentiellement fondé sur l'agencement du Coran, Nazmul Qur'an, et sa structure. On constate effectivement du fait que, jusqu'à la deuxième moitié du IIIe siècle de l'ère musulmane, la formation d'une doctrine sur le Coran se trouve au centre des préoccupations théologiques. Il fallait un système qui fasse droit tant à l'unicité divine qu'au Coran, en tant que révélation de la parole divine éternelle, pour que puisse être abordé l'aspect de miracle et de preuve de la prophétie du Coran. Néanmoins, par la suite, le centre de gravité théologique va être transféré de sorte que l'attention des théologiens portera uniquement sur le Coran comme miracle, prouvant la mission prophétique de Muhammad et s'occupera à déterminer la nature miraculeuse du Coran. La question d'Ijaz, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était propre à l'agencement du Coran, Nazmul Qur'an, va devenir avec elle Jahir, contrairement à Nazam, un Ijaz d'ordre stylistique, Balari, qui prend donc en considération Al-Alfad, les termes. Cette question, loin d'être unanimement acceptée, née après la standardisation et la mise par écrit du texte coranique, reste fortement liée à la nature de ce dernier et de ses qira'at. En conclusion, la transmission du Coran semble avoir été effectuée conformément au sens jusqu'au deuxième, troisième siècle de l'ère musulmane. L'imposition de la vulgate dite conforme à la révélation, dont les enjeux sont plus d'ordre politique que religieux, a coïncidé avec l'instauration de tous les concepts disciplinaires, le hadith des sept ahruf, la ard al-akhira, la question de l'abrogeant et de l'abrogé, et influencé les dogmes théologiques et juridiques. Dans ce contexte, il apparaît que le hadith, donc, que ces concepts-là, donc le hadith des sept tahrouf, le récit contradictoire également de la collecte du Coran, la nature et les origines de Qira'at, auraient effectivement parasité la démarche entamée à l'appui de l'I'jaz sur le statut du Coran. Toujours est-il qu'au sein de la tradition musulmane, nous trouvons des récits, ici et là, relatant tel ou tel événement de manière fragmentaire, à la manière d'un puzzle que le savant musulman essaye de composer ou décomposer jusqu'à ce qu'il réussisse à concilier ses récits à travers une dialectique supposée être logique, cohérente et fondée, mais qui semble plutôt être fragile, partiale et dogmatique. Merci de votre écoute et de votre attention.